Midi, une minute. Comment ça va? Bon vendredi. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Vous avez des choses à me dire. Vous êtes dans le pit stop. C'est le 418-971-102.1. Denis Gravel qui est là. Pascal qui est là pour nous accompagner aussi. Et Denis, première question. As-tu deux petits manipulateurs à la maison?
Absolument.
Qui ont développé des techniques d'on ne sait où pour nous manipuler constamment?
Bien sûr. Bien sûr.
T'as-tu entendu la nouvelle annonce du lait?
C'est laquelle, ça, son charmante, là? Celle-là avec l'ado, là?
C'est l'ado qui est autour d'une table où il y a 5 enfants qui sont attablés. Et il leur montre des trucs pour manipuler les parents. Sérieux, c'est tellement représentatif de ce qu'on peut vivre en tant que parent avec nos enfants. Puis tu dis, mais ouais, ils vont à quelle école, la manipulation? Je leur ai jamais appris à faire ça. Je vais vous faire entendre ça. C'est la nouvelle pub du lait. Donc, la famille du lait, vous pouvez aller directement sur leur page Facebook. Vous allez voir ça. C'est de toute beauté. C'est cute.
Je vous OK. Moi, je m'en vais à table des grands, mais vous autres, il vous reste encore des années cute. Surtout toi, Paul.
Ah, c'est vrai qu'il est cute, les uns.
Si on veut un privilège, est-ce qu'on demande aux parents?
Non, aux grands-parents.
Boum! Ils pourront pas résister. Puis on fait quoi pour un autre morceau de bûche?
Papa, c'est Noël.
Un petit peu plus penché.
OK.
Puis comme l'aigle, ma dernière dent de lait.
Wow! Attends, tu veux pas la laisser appeler des dents?
Ouais. Wow, OK. Vous êtes vraiment trop cute.
C'est vraiment bon.
C'est l'école de la manipulation.
Ouais. Mais le clin d'œil aux grands-parents, on s'est fait avoir, nous autres, la dernière fois que les grands-parents sont venus garder une fin de semaine. Puis, et papa, il veut ça. Oh oui, papa, il a oublié de nous installer YouTube avant de partir. nous autres, on écoute YouTube à tous les jours, là. Les YouTubeurs marocains, là.
On a le droit de se coucher à l'heure qu'on veut. Papa l'a dit.
Ils ont vraiment dit ça. Ils ont été assez game de le faire.
Ils ont pris le contrôle. Si bien que fin de semaine prochaine, les grands-parents reviennent garder. Et on est en train de rédiger un contrat.
Les règlements.
Oui. Non, c'est un contrat. C'est un vrai contrat. On va tous signer avant de partir. Puis,
Quand ils sont mis au courant, mettons, que papa il a su que papa a été utilisé dans une phrase à mauvais escient pour des mauvaises raisons, et leur face, c'est-tu « ou c'est comme « on est vraiment désolé ».
Non, ils essayent de pousser le loc à dire « ben c'est vrai que tu peux.
Des fois.
C'est vrai que tu veux. » Non.
Ils veulent changer ta propre perception de tes propres paroles.
Ouais, je suis plus dur à manipuler sur mes propres règlements. Là. Tu sais, ça marche un peu moins bien.
Ou des fois, ils te regardent et « oui, c'est ça que tu nous as dit la semaine passée », alors qu'ils savent très bien que c'est un mensonge.
Mm-hmm. Hey, ça, c'est inquiétant pour leur futur couple. Là. Ouais.
Vraiment.
Ou tu sais, tu te lèves un matin, qu'est-ce que vous faites là, ces jeux vidéo? Ah ouais, tu nous avais dit qu'on pouvait pas jouer le matin, mais...
Sans que t'as rien dit?
T'as pas dit quel matin? T'as pas dit quel jeu? Tu sais, c'était pas clair.
Ça, c'est bon, par exemple. Ça, c'est intelligent. Ouais. Ça, c'est un signe d'intelligence.
Ah, elles sont assez ratourées.
Ah, puis les YouTubeurs marocains, moi, je suis plus capable à la maison, Pascal.
Mais c'est pas fini encore.
Mes enfants parlent en marocain, français. Puis là, papa, j'ai la flemme. Non, ça me tente pas, j'ai la flemme.
Ouais, c'est un des plus beaux souvenirs avec toi cette année quand tu dis là, la flemme. Pascal, de quoi la flemme? Je dis, il est pas bien, il est pas en dépression, il est dépressif. Puis c'est quoi? Comment ça, tu savais ça, toi? Il y a certains mots qu'ils utilisent qui sont vrais, mais d'autres qui sont inventés. Là.
Le plaisir que j'ai, parce que c'est un des rares plaisirs qui nous reste quand on se fait manipuler comme ça, une fois de temps en temps, de faire gêner mon grand. Comme à son anniversaire, quand il déballait ses cadeaux. Puis là, j'ai dit, devant tous ses amis, j'ai dit, « Hey, là, je vais te montrer que ton père est cool, hein? Ça kiffe la flemme! »
C'est tellement
Puis là,
bon.
Il vient rouge mauve, il se met deux mains en face et dit, « Non, papa, c'est pas ça qu'on dit. »
C'est pas ça, la phrase.
Les amis riaient-tu ou...
Oui,
c'est tout le temps l'enfant qui est pas content, mes amis. Donc, ben, cool, ton père.
Moi, quand je fais des jokes un peu comme Denis, ils me regardent tout le temps en débile, genre. Ils sont rendus là, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ça, je suis persuadé qu'il y a une école de la manipulation des enfants. Je parlais de ma petite nièce à Audrey tantôt, 3 ans. Là, une belle petite princesse, les cheveux blonds bouclés, les yeux bleus. Elle m'a emmené à essayer d'attirer l'attention de sa mère, puis sa mère était en train de parler. Puis je l'ai vue, j'étais derrière elle, donc elle, j'étais dans son dos en fait, fait qu'elle me voyait pas. Puis elle disait « Maman, maman », puis là, sa mère ne le regardait pas. Elle a tapé sur le mur, puis après ça, elle s'est pognée la tête. Comme si elle venait de se cogner la tête. Puis elle a commencé à pleurer, puis là, sa mère l'a pris dans ses bras, puis elle était contente.
C'est un autre niveau.
Elle va être terrible à l'adolescence.
Ça va devenir une femme.
Franchement.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais.
Mais ça, ça me fascine. Est-ce qu'il y a des parents?
Elle va être terrible à OD, elle.
Oui, exact.
Juste que les caméras vont capter, pas juste Yann.
Elle va gagner, mais pas avec le gars qui pense qu'il va gagner.
Mais les parents se parlent-tu, tu sais, parce que nous autres, ça n'a jamais marché. Là. Les parents se parlaient trop.
T'as jamais tenté de les manipuler?
Ben oui, c'est sûr, comme n'importe quel enfant, mais ça, ça se parlait trop.
Oh, ouais.
Mais t'es ton père, puis là, il allait voir mais le père ou le...
Tes parents sont ensemble?
Ils sont plus ensemble.
Ils sont plus ensemble. Mais
moi, je les ai trop mis à l'épreuve.
C'est une game de parents séparés aussi, là. Ouais. Tu sais, quand tu t'en vas chez papa une fin de semaine sur deux, puis oh oui, maman, elle me laisse me coucher à 11h le soir. T'envoies un texto.
C'est ça.
Tu couches-tu à 11h? Jamais!
Quand ils se parlent, ça aide. C'est ceux ça. Qui sont en mauvais terme, peut-être ça aide.
Nous autres, on a fait les mêmes règlements dans les deux maisons.
Okay.
Fait qu'ils sont pas
c'est bon.
Perdus.
C'est bon,
puis quand il y a une demande spéciale, ben ils doivent le demander à leur mère, même s'ils sont chez nous quand même.
Il y a la loi du tout le monde aussi.
Oui.
Hein? Tu dois la connaître, cette loi-là, la loi du tout le monde.
Oui.
Ben oui, mais tout le monde se couche à 11h le samedi. Tout le monde a un Nintendo Switch.
T'es le seul père qui achète pas deux Xbox dans une maison.
Ah, mais ça, on l'utilisait.
Toutes mes amies jouent à Fortnite.
Soyons honnêtes, on l'utilisait, celle-là. Là.
Ouais.
Maman répondait toujours, OK, mais si tout le monde se jette en bas du pont, vas-tu te jeter en bas du pont?
Ouais, mais, ben ça, ça a servi chez nous, mais à un moment donné, moi, j'étais un adepte du tout le monde. Puis à un moment donné, ben maman m'a regardé, pince sans rire, puis a dit... Ah ouais, ben tout le monde a un Nintendo. Ben ça fait de toi un enfant unique.
Oh mon Dieu, c'est bon.
Faisait mal.
Steve Cash, quand on était jeune, lui, il avait deux parents, puis les deux parents, visiblement, se parlaient pas. Fait qu'il disait à son père, « Papa, je peux-tu aller à telle place? » Ben, demande à ta mère. « Oui, j'y ai demandé, elle m'a demandé de te le demander à toi. » Fait que, ben, il disait, « OK, ben si maman veut, je suis d'accord. » Mais maman m'a dit que t'allais me donner 20$ parce que l'Expo Québec, dans le temps, ça coûtait cher. Fait que 20$. Fait que là, lui, il donnait 20$.
Ben, c'est de l'argent.
Après ça, il allait voir sa mère. C'est pour ça qu'il s'appelait Steve Cash. Hey maman, je peux-tu aller à l'expo? Oui, demande à ton père. Oui, justement, il avait pas d'argent, mais il m'a dit qu'on pouvait y aller. T'as-tu 20$?
40$.
Et elle a donné 10$.
Dans le temps?
La pause.
Là, notre barbe à papa a été réglée pour toute la journée.
Ben, pas juste ça. T'es sûrement tes manèges à longueur de.
J'ai dîné et soupé avec barbe à papa puis le jus orange croche.
Ah, ouais, ouais.
Puis dans le zipper, là, j'ai vomi.
Non, ouf. non, pas celui avec le grillage vert.
Des grilles.
Oui.
Non.
Tout le monde a reçu ça en bas.
Ben, attends un peu, celui qui était dans la cabine aussi, parce que c'était aussi fermé qu'ouvert, cette histoire-là.
Exact, t'es pogné, c'est une cage, là. Puis quand je suis sorti de là, j'ai dit, sacrament, qui c'est qui a vomi sur nous autres?
Ouais, mais là, tu devais être plein de vomi, tu devais sentir.
J'avais 11 ans, je m'en rappelle comme si c'était hier.
Oui, mais tu devais sentir,
c'est
pareil.
C'est très bon.
Non, mais tout le monde en avait, là.
C'est parce que, je sais pas si tu te souviens des multiples mouvements du zipper, là. À partir du moment où ça part, là, c'est la pluie pour tout le monde, là.
J'avoue qu'il devait pas être le seul à en avoir dessus.
Voilà. Est-ce que t'es parti d'ici tard hier, toi?
Pas très, non. Écoute, je suis arrivé chez nous, il était 7h30, parce que, bon, pour les gens qui suivent un peu l'actualité radiophonique, c'était nos résultats de sondage hier, puis la plupart des stations de radio ont un party le soir même où ils se dévissent la face, puis aujourd'hui...
Le vendredi, une journée problématique quand ça arrive.
Aujourd'hui, tout le monde a mal à la tête, sauf nous autres, parce que notre party de Noël, il est vendredi prochain.
Ouais.
Ouais, fait qu'on va pouvoir rester, nous autres.
Fait que quand t'es parti, est-ce que t'as dit ça à tout le monde? T'as fait...
Pour une rare fois, ben c'est parce que il y avait comme deux cercles de conversation fermés. C'était impossible de partir comme Batman part d'un film des fois. Là, tu sais, le commissaire Gordon, il parle, il se dévive, Batman n'est plus là. Ça, c'est mon genre de départ habituellement. Là, j'ai pas pu... Fait que
fallait que tu te lèves devant tout le monde, c'est ça que c'est passé.
Ben, c'est ça. Fait que je suis revenu et j'ai dit « Bye tout le monde, là! Bye! »
C'était rare.
Ah,
c'était
ouais,
rare.
Ouais.
Au revoir de Denis, là.
Moi, j'ai 6h15, je regardais l'heure, je me dis « Crime, belle heure pour aller aux toilettes. » Fait que je disais à Audrey « Je vais aller pisser. »
Jamais revenu. Yes.
Le plus drôle de Denis, c'est qu'il s'est levé, il a dit salut à tout le monde. Tout le monde a dit hey, salut Denis, salut. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui, d'habitude, part pas tôt, qui s'est levé, il dit hey, moi, je m'en vais aussi. Puis là, t'es comme oh non, toi, tu t'en vas pas. Puis Denis, t'es comme je viens de vous dire bye, il y a personne qui était déçu.
C'est ça. Mais quand c'est Mathieu Marcotte, hein,
ah, ben oui,
c'est ça qui arrive.
Exact.
Bye, Gravel. Bye. Matt, reste donc, Matt. Oh, toi, non, t'es le fun. Toi, t'es de party.
Mais c'est pour ça qu'on sauve, hein. À 6h15. On veut pas se faire dire, ouais, mais là, t'as rien à soir, prends un verre de plus.
Ah, puis en même temps, c'est le piège de toutes les parties de bureau. Quelqu'un qui veut partir tôt ne doit pas saluer avant de partir. Parce qu'il reste tout le temps un verre,
c'est ça.
Il reste tout le temps une conversation, il reste tout le temps quelqu'un d'achalant qui a quelque chose à dire ou des comptes à régler. C'est pas le temps. C'est faux. Quand tu pars, tu pars. Les tu ne regardes pas en arrière.
Les fameux comptes à régler des parties d'employés. C'est-tu d'un ridicule, ça?
Ben, j'ai jamais compris. C'est tellement pas la place.
J'ai jamais vécu ça dans une station de radio, soit dit en passant, mais dans mes autres jobs que j'ai eu par le passé, là, c'était des gens qui étaient en pleurs pendant des parties d'employés.
J'ai été témoin de ça à de multiples reprises au fil des années. Récemment, un party de départ d'un employé, je nommerai personne, en fin de soirée, il y a une de ses collègues qui a décidé qu'elle réglait ses comptes avec, puis c'était le temps de parler des choses vraiment importantes, alors que tout le monde est chaud d'ail, puis qu'on fête le départ de quelqu'un.
Ah, c'est peut-être ça la raison, l'alcool.
Pis, oui, puis ces conversations-là, étant donné qu'il y a un taux d'alcool, ben ça devient émotif vite. Et,
la prononciation aussi qui n'est pas évidente.
Ouais, ouais. Puis on s'est ramassé, tu sais, à l'école. Tu sais, à l'école, quand t'avais deux personnes qui se battaient, on se mettait en rond autour. Ouais. Là. Fait que là, c'était un règlement de compte émotif. Puis tout le monde s'est mis en rond comme si c'était une bataille au secondaire. Mais quel beau spectacle.
T'es resté là?
Ben oui. Mais c'était très entertainant.
On s'est fait écœurer, toi et moi, en passant à Yannick, par, je le nomme, Gabriel Marino.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Gabriel Marino, j'ai même une vidéo, ça a été enregistré ce moment-là, parce que ça a l'air que toi non plus, tu ne buvais pas. Moi, j'ai pris une coupe de vin, puis après ça, je suis passé au sans-alcool.
Ouais, j'ai pris une canne de sans-alcool, ça goûtait le cocombe. C'est dans le frigidaire.
C'est un gin tonic sans alcool.
Ouais. Ça goûtait le cocon, mais c'était pas au cocon. Fait que, bref, j'ai transféré sur l'alcool, la Coors Light.
Okay, ouais.
La grosse alcool.
Oui, le gros stuff. Là.
Fait qu'il était choqué parce qu'on buvait pas.
Ouais, il dit, faites vos toffs en ondes, vous autres, hein, l'équipe des toffs du côté de Boulevard, mais quand c'est un party, ça boit pas. Ouais,
juste faites deux games de hockey hier soir.
Puis, moi, je suis comme, mais ça fait tellement réagir quand tu bois pas d'alcool.
Moi,
c'est
veux
ça
pas...
qui est plus drôle.
Moi, je veux pas vivre dans un monde... où je suis intimidé par Gab Marino. Le monde dans lequel je vis, c'est l'inverse habituellement.
C'est vraiment le gars le plus habillé serré, ça.
C'est, il a un petit look Ned Flanders bien sympathique. Là,
mais... Un peu cow-boy.
Il n'est pas très intimidateur.
Mais quand il parle, c'est qu'il pense ce qu'il dit. T'sais. Mais ça, c'est juste les réactions qui me faisaient... Même Nathan Meilleur, t'es comme... Oh, tu vas pas partir à 19h, voyons, tu bois pas d'alcool.
C'est pour ça
fait
que je
t'allais
pisser ça,
mais brillant. Ça fait réagir quand tu bois pas.
C'est, encore?
C'est ce qui m'a surprise. Mm. Parce que ça m'arrive pas souvent de pas boire aussi. Fait que...
OK, ouais, habituellement,
c'est
tu bois rien aller.
C'est comme la première fois que
tu
face aux réactions.
All right, OK. Hey, on avait des vœux de Noël des politiciens. C'est quelque chose que tu suis à chaque année, Pascal?
Ah, tu t'adresses à moi? Ben oui, assurément.
Parce que je me souviens même pas du vœu de Noël de François Legault de l'année passée.
Ouais, c'est un peu gênant, je pense, de dire que c'est un rendez-vous que je m'offre à chaque année.
Mais c'est quoi, ils font des sketchs, c'est ça?
Non, ils sont à l'Assemblée... Je m'excuse, mais ils sont à l'Assemblée nationale. Je vous jure, c'est fun, OK? C'était en direct ce matin, puis c'est quand on... Je vous jure, c'est fun!
François Legault fait des jokes sur l'argent... des contribuables qui a brûlé toute l'année.
Oui, puis sur
drôle,
les autres parties. Mais ça fait comme un peu faire en sorte qu'eux, au moins, ils se sont rendus compte de ça. Après, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec, mais c'est les vœux de Noël à l'Assemblée nationale une fois par année. Puis c'est là où tu vois les talents de politiciens pour peut-être nous mener en bateau, nous faire rire ou encore aucun talent pour jouer un peu. Je me demande qui ont écrit les vœux de ces politiciens-là. Par exemple, ça a commencé avec François Legault. Puis je riais tout seul de mon bord, puis je voyais que Véro Bergeron riait de son bord. Puis on s'est rendu compte finalement qu'on écoutait la même affaire, fait qu'on l'a mis sur la télé. Au début, on était un peu perplexe par rapport à François Legault, mais plus ça avançait, mieux c'était. Je ne sais pas si on se dit « yes » parce qu'il s'est rendu compte de certaines choses ou « yes », on s'est encore fait plus fourrer parce qu'il était tellement conscient de ce qu'il faisait. Pour vrai, je me le demande encore. Mais l'année passée, il a demandé une boussole, OK, comme cadeau de Noël, peut-être pour recentrer son parti, réaliser certains objectifs qu'il avait perdu le Nord. Et là, cette année, il a demandé une batterie. Tout le monde est parti à rire dans les autres partis, puis il a dit « c'est peut-être pour commencer l'année en Lyon ».
Lyon.
Je sais pas si on peut en rire, mais chose certaine, c'est son vœu.
Tu sais, quand on dit les politiciens rient de nous autres, ouais. Là, ben là, c'est pas plus. Tu peux pas être plus clair que ça.
Marc Tanguay, qui est venu sur nos ondes puis a offert des shooters aux gars cette semaine, a offert la meilleure des prestations. Il y en a qui étaient littéralement pourris en passant. Donnez-leur pas cette tâche-là pour une fois qu'on a du fun quand on suit une période à l'Assemblée nationale.
Mais comment tu peux être pourri pour des vœux de Noël? Je comprends pas.
Ben parce que c'est un peu humoristique. Sinon, ça vient long.
Il y a des gens qui sont juste plates comme la pluie. Là,
ben, l'une des porte-parole de Québec solidaire, on s'est dit, bon, pourquoi c'est elle qui a pris la parole?
Elle n'a pas d'humour. Hein?
Marc Tanguay était là, il était extraordinaire. On se demande vraiment s'il n'y a pas genre un Guy Nantel caché derrière certains vœux ou encore un Arnaud Soli, mais il y a du monde qui se sont fait aider là. Il est allé dans la thématique de réconfort. Si vous pouvez reprendre les vœux, faites-le. Mais je peux vous dire qu'il a offert des terrines de faisan à François Legault, un coton watté de son futur collègue Pierre Poilievre, un beau coton watté bleu, là, ciel, avec la grosse face à Poilievre, avec ça m'apparentait un joint dans les doigts, là, mais c'est une autre affaire. Et un chandail des Kings. Il a dit, hey, tu l'as oublié sur ton bureau, je te le donne, c'est mon cadeau, j'ai pas pu l'encadrer parce que j'avais pas le budget.
Chandail des Kings, c'est excellent.
Très fort. Pour QS, on a offert des moniteurs de bébés pour les cours porte-parole qui sont nouvellement parents. Puis s'ils veulent communiquer ensemble, ben, ça va être une façon aussi d'éliminer les bruits de fond, ça a l'air.
Ben, ça braille beaucoup au caucus aussi. Hein, fait que c'est une autre place où ça peut être utile.
Pour la pâte, pour le Parti québécois, Marc Tanguay a offert un sac de pâte patrouille à PSPP et une trousse de spa pour se reposer à la maison, loin des regards des gens. Et aussi, il a sorti d'un grand sac. Parce que rappelez-vous de la prise de parole de PSPP sur les wok, il a sorti l'accessoire de cuisine, un wok. Puis il a dit ça, c'est très bon pour discipliner les militants si jamais vous en avez besoin.
Je pensais qu'il allait sortir Richard Martineau d'un sac. Tiens, ton meilleur ami, parlez de wok à cette heure.
C'est certain des vœux. Qui se valent comme prestation du côté de l'Assemblée nationale. Ça a été fait en direct ce matin pour clôturer un peu cette session-là, mais allez réécouter. Allez réécouter, c'est un bon moment.
On parlait avec Antonine Iacarini tantôt, mais je vais y parler certainement de Gabriel Nadeau-Dubois, qui est de plus en plus énigmatique quant à son avenir. Là, c'est un congé de paternité prolongé. Il veut rester le plus longtemps avec ses enfants, mais j'ai l'impression qu'il
ne se... On lui a offert de se pratiquer pour faire des lunchs aussi. Ça doit sûrement te faire rire, toi?
Oui. J'ai l'impression qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections. Puis, il va travailler pendant quelques mois, que ce soit pour un syndicat ou pour les médias. Puis, je pense qu'il va se greffer à une autre équipe.
Il est rendu là dans
le processus parce qu'il ne deviendra jamais premier ministre avec Québec solidaire.
Moi, je pense qu'il rêve de devenir premier ministre, puis il regarde le petit jeune qui est devenu le petit jeune à sa place. Il regarde Paul Saint-Pierre, Plamondon, puis il se dit « Hey, ça aurait pu être moi, ça. »
Exact.
Puis j'ai laissé passer. C'est un opportuniste, Gabriel Nadeau-Dubois. C'est un gars qui est très habile à toujours mettre le flou. Il était comme ça dans les manifestations étudiantes. Il y a de la violence, mais c'est pas de notre faute, mais on la condamne pas. Il est encore de même avec Québec solidaire. Il y a de vilains traits de caractère qui devra travailler si jamais il veut être premier ministrable. Mais c'est quand même... J'ai l'impression qu'il est très jaloux du parcours des 2-3 dernières années de Paul Saint-Pierre Plamondon.
Mais question, il va c'est... où? Même s'il traverse, Yannick, là.
Moi, je pense qu'il s'en va au Parti québécois.
Oui, mais il n'y aura pas à chefferie.
Il a manqué sa place.
Il n'a pas la place.
Oui, mais Paul Saint-Pierre Plamondon va être là pendant 15 ans. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il va s'en aller au Parti québécois. Il a des affinités avec le Parti québécois. Puis au gros peu, il est capable de se... Tu sais, avec Québec solidaire puis le Parti libéral, ça pourrait être aussi une façon pour lui de faire la transition. Je suis persuadé qu'il va changer de parti.
Ça se peut qu'il aille faire de la radio à Montréal pendant quelques années aussi. On me dit que prochainement, il va avoir plein de micros disponibles. Là, fait que... Un coup qu'ils vont voir Fanny claquer les portes. Une couple de portes qui vont s'ouvrir, j'imagine. Ouais. Ça prend toujours un bon gauchiste là, dans les personnages montréalais.
Mais laisse Bernard Dainville y retourner s'il veut.
Mais ce qui est hallucinant dans la carrière de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est qu'il n'a jamais vraiment travaillé. Il n'a jamais vraiment travaillé. Il était pour les Carrés Rouges. Après ça, il est allé travailler pour un syndicat qui le chargeait de voir tout ce que les stations de radio disaient. Après ça, il est devenu politicien avec Québec solidaire. Mais il n'a jamais eu une job normale.
Ouais, moi aussi, je suis jaloux.
Mais toi, tu le fais à longueur ta journée.
Non, mais il n'a jamais eu une job normale.
Je t'aime, Denis. C'est une farce facile.
Mais il y a plein de gens qui réussissent à faire des détours pour
Denis
pas...
Denis Coderre, c'est ça aussi.
Ben oui. Puis c'est pour ça, là, c'est pour ça qu'il veut pas revenir à la vie normale, là. Il est dans le déni, Denis Coderre, là.
Mais c'est fini, là, Denis.
Ben oui, c'est fini.
400 000 piastres.
Et c'est une triste fin. C'est une triste fin parce que l'humain était sympathique. Tu sais, on apprend des fois à côtoyer des politiciens sur quelques années, puis il y en a quelques-uns qui sont sympathiques. Puis j'osais que Denis Coderre, quand tu t'ostines pas sa politique ou qu'il y a pas un agenda politique, c'est un bon yaob. Je trouve ça triste. C'est un addict à la politique, qui n'est pas capable de vivre sans. Mais tu sais, quand tu es addict, ta drogue, elle te fait mal. Elle te nuit au niveau de ta santé mentale, au niveau de ta santé physique. Coderre vit pas bien avec la politique, mais il n'est pas capable de s'en passer. Puis là, la politique veut plus de lui. C'est triste.
Oui, il y a c'est plus triste. Besoin de la politique que la politique oui, veut de lui.
Oui, absolument.
Puis tu sais, je me souviens, moi, j'ai regardé une entrevue avec Dutrisac. Dutrisac qui parlait justement de sa dette envers le gouvernement, puis il l'a détruit.
Mm-hmm.
Je veux dire, puis il essayait d'être doux avec Coderre, puis Coderre, il n'avait pas des réponses qui avaient du bon sens. Il n'avait pas le choix d'y reposer d'autres questions, puis Coderre, son feu s'éteignait. Là.
Ouais.
Fait que pour ce qui est de Coderre, d'après moi, il devrait se retirer, mais tel qu'on le connaît, je pense qu'il va pousser l'audace
va s'acharner.
À s'acharner, j'en suis persuadé. Mais à un moment donné, ça va y prendre une job. Là.
Oui, ben là...
Il n'est pas payé.
Là. Ben là, faut qu'il paye ses impôts, clairement.
Il n'est pas payé, puis il se doit le cul.
Ouais.
Fait que ça va y prendre une job à un moment donné. Autre chose que je voulais jaser avec vous deux, depuis 15 mois, Ça, c'est dans le Journal de Québec, Patrick Bellerose, qui a fait le papier là-dessus. Il y aurait entre 67 et 79 patients qui sont décédés en attente d'une chirurgie cardiaque parce qu'on avait un manque d'employés pour procéder à une opération. Dans ce cas-ci, c'est des perfusionnistes. Là. Moi et Véro, on a cherché qu'est-ce que ça voulait dire, perfusionniste. On comprenait perfusion, mais qu'est-ce que ça fait concrètement, un perfusionniste? C'est le gars ou la fille qui s'occupe de la machine cœur-poumon.
Exact.
Donc, c'est une job qui est hyper importante.
Ben, ça maintient la personne en vie pendant l'opération.
Puis les médecins spécialistes peuvent pas se passer de ces gens-là. Donc, il y aurait eu entre 67 et 79 patients qui seraient décédés parce qu'on avait un manque de perfusionnistes au Québec.
C'est triste. C'est triste, puis moi, je suis toujours ambivalent quand on nous donne des chiffres comme ça parce que tu te demandes, c'est-tu une réalité factuelle ou c'est un argument de négociation syndicale? Si c'est du factuel... puis qu'on est capable de prouver que c'est parce qu'on a un manque de personnel qu'on a laissé mourir du monde sur des listes d'attente, c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est inacceptable. Puis on donne beaucoup de détails, puis on le donne avec beaucoup d'émotion. Si c'est une pièce de théâtre, elle est drôlement bien jouée, elle est mieux jouée que d'habitude. Mais je sens qu'il y a un fond de vérité là-dedans, puis c'est terrible.
Puis terrible. Tu sais, nous autres, on n'est pas en colère, là. On trouve juste que ça n'a pas de maudit bon sens parce qu'on n'a pas quelqu'un à côté de nous qui avait un problème cardiaque qui est décédé. Mais je pense au fils. Tu sais, son père, il était supposé se faire opérer, finalement. Il n'y avait pas assez d'employés, puis on a remis ça dans un mois. Finalement, le monsieur est mort. Lui, là, le fils, là, il paye des impôts depuis toute sa vie. Son père a payé des impôts depuis toute sa vie pour finir qu'à ne pas avoir assez d'employés dans une salle de chirurgie, puis que son père creuve. Lui, là, il a la rage au ventre.
Veux-tu qu'on parle de la famille Teasdale? T'sais,
un autre bon point.
Il y a des membres de la famille qui sont sortis et qui ont été très publics sur le fait que leur père devrait être encore parmi nous, là. T'sais, qu'il y a eu de la négligence, qu'on a laissé dormir le dossier d'une façon ou d'une autre. On sait que ça existe. Mais ça, c'est des chiffres qui sont énormes. Puis tu te dis, c'est combien de patients au total?
Ouais, à peu près en bas de 80.
En bas de 80, tu sais, c'est plusieurs dizaines de familles qui perdent quelqu'un puis qui se font dire, peut-être, ou je sais pas s'ils le disent. C'est un peu ça que je me demandais.
Tu sais, t'es en colère, t'as perdu ton père, puis là, tu vois qu'on vient de créer une autre organisation en santé, puis là, ben, les fonctionnaires qu'on transfère ont des augmentations de salaire. Tu regardes ta paye, on sait qu'on envoie plus de, c'est quoi, c'est 60 milliards, donc plus d'un million de dollars par semaine, plus d'un milliard de dollars par semaine au système de santé, puis c'est pas suffisant, puis on a échappé ton père parce qu'on n'avait pas assez d'employés pour l'opérer. Ça doit être épouvantable à vivre.
Je pense pas qu'on le dise comme ça, mais ces gens-là doivent se poser des questions quand il y a quelqu'un qui décède, t'as pas nécessairement les réponses. Puis un bon matin, tu ouvres le journal, tu lis ces chiffres-là, puis tu te dis, oh, OK, c'est probablement ça qui est arrivé, là, qu'ils n'ont pas voulu me dire clairement. Là, t'sais.
On a-tu le droit d'avoir des recours?
Écoute, moi, je pense que oui, là, parce que ça, c'est une forme de négligence. Je veux dire...
Ton père creuve, là, puis tu sais que c'est parce qu'il y avait un manque d'employés dans la salle, là. C'est sûr que
moi,
tu
je fais la
peux
guerre
pouvoir
à
poursuivre.
Tout ce que je peux pour réclamer justice là-dedans. Puis je vous parle pas d'argent, là, mais je pense que je deviens émotive à un point où je vais me battre.
Prends-toi donc une note. Tu vas reparler à Marc Bellemare lundi.
C'est lundi, oui.
Parce que d'après moi, si ça se fait, il y a un avocat qui est sur un recours collectif présentement.
Il veut pas se faire payer, il va juste se payer s'il gagne. Il va s'en foutre carrément. Là.
Pour ce qui est des perfusionnistes au Québec... Quand il rentre comme perfusionniste, je vous rappelle que c'est la personne qui est quand même relativement importante dans l'opération, s'occupe de la machine cœur-poumon, il rentre avec un salaire de 27,46 au Québec contre un salaire de 42$ à 65$ selon les régions en Ontario.
Crime.
Fait que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des étudiants qui sont infirmiers, se spécialisent, deviennent des perfusionnistes. Eux autres, ils regardent les salaires en Ontario puis ils disent, regarde, le Québec, c'est bien beau, mais on va s'en aller vers l'Ontario.
Fait que eux autres, sont-tu obligés de travailler 5 ans dans le secteur public à partir de l'an prochain?
Ça revient à ce qu'on disait hier.
Ben, tu vois, on verra jamais le bout de ça, coup qu'on va ouvrir la porte.
Puis là, ben, pour freiner l'exode, qu'est-ce qu'on demande? Ben, on demande un 51$ à l'entrée en plus d'une meilleure progression salariale.
Ouais, on a-tu les moyens? Et on revient toujours dans les mêmes genres de négociations et de dialogues.
Non, on n'a pas les moyens, mais les gens qui vont te le dire, ben, si c'est des gens de l'Assemblée nationale, ils ont eu 30% d'augmentation et peut-être même plus. Puis si c'est des gens du nouvel organisme santé, c'est encore des fonctionnaires qui ont eu encore plus d'argent de plus, mais ils vont dire qu'ils n'ont pas les moyens.
Monsieur Marceau, ces gens-là sont uniques. Ils ont des familles à nourrir.
Oui.
C'est important.
Je ne peux pas en vouloir à un politicien veut nourrir sa famille.
C'est des amis, puis ils travaillent fort, Monsieur Marceau.
Quelqu'un qui dit, puis je trouve ça intéressant parce que c'est le genre de choses qu'on a déjà jasé, toi et moi, il n'y a personne au Québec, aucun politicien ou aucune politicienne qui va avoir le courage de prendre le système de santé au bout de ses bras puis de le sacrer au vidange pour recommencer à la base.
C'est-tu faisable? C'est plus ça la question en ce moment, parce que le courage, il y en a qui ont tenté de l'avoir, de tasser le bateau. Là où je comprends le mot courage, s'il est utilisé dans le sens, le courage de se faire haïr pour au moins présenter aux gens que si tu fais quoi que ce soit, le syndicat te ramasse, la bureaucratie te ramasse, l'administratif te ramasse, les électeurs te ramassent, puis au final, tu n'auras rien avancé.
Au final, il
n'y
a rien qui bouge. Comptez le nombre de ministres de la Santé, tout parti confondu, qu'on a eu dans les 20 dernières années, qui arrivaient avec une ampoule au-dessus de la tête. Là. Moi, j'ai la solution. Là. Moi, c'est Toyota. Moi, c'est les coupures.
Toyota,
et, oh, il y avait toutes leurs affaires.
La méthode Toyota.
On ne s'est pas sauvé avec ça. Hein? C'est que dès que tu exiges une contrainte ou dès que tu demandes un effort à un groupe syndical, le groupe syndical se hérisse et ils disent non, nous autres, on ne fait pas ça. Et à partir du moment où il y a une fin de non-recevoir, ben, le projet il tombe dans les limbes, puis il n'y a rien qui avance et il n'y a rien qui bouge.
Il y a de ça un an, on voyait que Christian Dubé voulait reprendre le système de santé, voulait remettre ça tout à l'ordre pour que tout fonctionne bien. Il était rempli de bonnes intentions. Moi, ce qu'on me disait à la CAQ, c'est que ce gars-là travaillait 16 jours par semaine, travaillait extrêmement fort. Puis on avait dit, il y a de ça un an, faut juste pas qu'ils écoutent les gens qui sont dans le système depuis des années, qui dirigent depuis des années, toujours de la même façon, puis qui veulent aucun changement. Puis tu sais quoi, j'écoutais Jacinthe Varet le matin, qui est avec la gang de Rage Against le matin, et elle a dit que Christian Dubé, actuellement, autour de lui, ce n'est que des fonfons qui sont dans le système depuis des années et qui ne font plus de terrain depuis des années et des années. C'est la pire des affaires à faire. Ce que lui devrait faire, c'est aller voir les préposés aux bénéficiaires qui sont en théâtre de guerre, aller voir les infirmiers et infirmières qui sont en théâtre de guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous trouvez dur? Même affaire pour ce qui est des médecins.
Couper les intermédiaires et aller voir les gens directs.
Les fonctionnaires qui ne sont plus dans le système depuis 20 ans, quel conseil tu veux prendre d'eux?
Eux autres, ils veulent se rendre à leur retraite sans que rien ne bouge. Parce qu'ils sont bien, sont confortables, ça va bien. C'est des belles pantoufles, on ne changera pas nos habitudes rendues là, no way. Tes échos concernant Christian Dubé viennent de la CAQ, les miens viennent du milieu de la santé. Il y en a beaucoup qui sont cyniques dans le système de santé, évidemment, mais il y avait une bonne dose d'espoir envers Christian Dubé parce que quand tu rencontres ce gars-là, ça a l'air que, premièrement, il connaît les enjeux, deuxièmement, effectivement, c'est un gars qui travaille très fort, mais le cynisme vient toujours à bout du raisonnement en disant on a peut-être une bonne personne comme ministre de la Santé qui a des bonnes idées, mais entre cette personne-là et nous autres, il y a toujours le même magma où se perdent les idées puis où se désintègrent les projets puis les petites et grandes révolutions du système de santé. Ça va donner quoi, là? La nouvelle superstructure qu'on installe par-dessus les structures? C'est une structure qui va être capable de faire plier un syndicat? C'est quand la dernière fois qu'un syndicat a dit dans le domaine de la santé « Hey, ça a bien de l'allure, puis pour le bien du système, on va faire notre bout. » C'est jamais arrivé.
Des fois, je m'épivarde aussi, là, puis je me mets à penser au fait que c'est le chef d'un parti qui va choisir qui est ministrable, dans quel ministère aussi on va l'envoyer. Puis à chaque fois, les sélections pour certains ministères plus chauds, plus difficiles, sont clairement faites pour avoir un genre de mainmise sur comment ça va se passer. T'sais, si c'était le public, par exemple, qui faisait élection de certains ministères puis de qui va être à la tête, y a-t-il quelque chose qui va changer en arrière de ça? Parce que c'est tellement fragile puis tu peux perdre ton élection pour le gouvernement, pour une chefferie en même temps, dans certains ministères comme celui de la santé. Tout peut basculer. Rappelez-vous d'un Barrette, là. Hey, ça n'avait pas fait du bien aux libéraux à ce moment-là. Là. C'est l'air Barrette. Puis
en même temps, lui, il voulait couper puis il voulait brasser syndicat. C'est pour ça qu'il a été démonisé très rapidement.
Ben oui, puis il l'a fait. Il a brassé comme lui a souhaité le faire. Mais tu sais, ça a quand même coûté fort probablement des élections pour le Parti libéral par la suite. Est-ce que ça devrait pas être... Là, je vous le dis, je m'épivarde. pouvoir et devoir d'un peuple de choisir qui va être à la tête d'aussi gros ministères ou c'est vraiment le chef d'un parti qui doit le faire parce qu'il va vouloir se protéger, chef de parti?
Bien, quand c'est un ministère comme celui de la santé, c'est souvent quelqu'un qui a les connaissances nécessaires. Puis c'est, on dirait que c'est rendu un genre de tradition. On sait d'avance qui va être le candidat de la santé. C'est probablement le candidat le plus clair lorsqu'on présente une équipe pour une campagne électorale.
Les médecins se sont succédés. Là,
oui, oui, il y en a eu beaucoup.
C'est parce que tu veux une crédibilité, mais après, le médecin que tu vas choisir va aussi avoir une connivence avec ton chef.
On a un comptant.
Puis en même temps, de voir qui est nommé dans certains ministères, ça nous montre aussi l'importance qu'un gouvernement donne à certains ministères. Comme présentement, par exemple, on peut voir que la CAQ, ils trouvent ça important et
Ils trouvent ça important,
la santé. Et l'éducation, ça n'a pas de l'air tant important que ça. Mettons.
Cheap shot.
Ben là, c'est quoi? C'est quoi les compétences de Bernard Drainville pour être ministre de l'Éducation?
Aucune.
C'est-tu quoi?
Il chante des cow-boys fringants? Hey, fuck off,
cheap
là.
Cheap shot, ben, ça me fait... Je me prends comme une blague. Ça me fait rire. Je suis tannée.
Non, mais c'est vrai. Tu sais, c'en est un bon exemple. Tu prends un ministre qui n'a pas nécessairement le bagage ou les connaissances nécessaires, puis à chaque fois qu'il y a un problème qui arrive, il a de l'air de ne pas savoir de
ça,
quoi.
Ça fait un peu partie de la politique spectacle, du genre on avait des têtes d'affiches politiques, puis on a décidé qu'on les mettait dans des ministères, parce que c'est comme ça aussi qu'on va briller pour eux, mais où pas. Hein?
Au même titre, tu sais, c'est un titre honorifique, là, celui de vice-première ministre du Québec. Là.
Ben oui.
Quand tu regardes le CV, c'est pas un CV pour diriger des ministères aussi importants qu'elle l'a dirigé.
Mais on vote pour eux, là. S'ils sont rendus à la tête d'un ministère, c'est toujours bien parce qu'ils ont passé aussi dans certains secteurs.
Ils sont députés.
Mais il y a des gens qui se considèrent comme des gros noms et des vedettes qui se négocient des ministères aussi. C'est peut-être ce qui est arrivé dans le cas de Bernard Drainville, qui était courtisé par plusieurs formations
politiques.
Mais
nous, on a voté pour aussi. Il faut tout le temps avoir la réflexion.
La personne nous écrit, je nommerai pas son nom. Salut la gang, je suis inhalothérapeute. J'ai quitté mon emploi cette semaine pour aller au privé. C'est un cirque, le système de santé.
Triste lire ça, hein?
Ben oui, c'est triste, parce qu'on en perd une. Là.
Ouais.
Mais tu sais quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'elle va voir plus de monde en tant qu'inhalothérapeute au privé que le monde qu'elle pouvait se permettre de voir au public, parce que c'était comme n'importe quoi. Ça revient au médecin que je te disais, tu sais, les chirurgiens disent on aime mieux pratiquer au privé parce que les salles sont toujours disponibles, les employés sont toujours là, les employés sont heureux, versus je vais aller pratiquer ma chirurgie au public où des fois la salle n'est pas disponible, elle n'a pas été aseptisée, il manque une infirmière, il manque un perfusionniste, il manque ça, c'est une catastrophe. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui va avoir... Si jamais un jour quelqu'un va avoir le courage de tout sacrer ça à terre, ça serait-tu ce qu'il y a de mieux, tu sais?
Est-ce que ça peut se faire?
Ouais,
on dit ça, tu sais. On sacre tout à terre, mais on est même...
Tu passes par rapport... bord en bord à un syndicat.
Dans ma dictature, Denis, ce que j'appelle l'île de l'utopie, tu prends cet hôpital-là, tu laisses les fonctionnaires-là, tu bâtis un autre hôpital à côté... Puis t'embauches le monde compétent. Midi 33. Merci beaucoup, Denis Gravel.
Hey, salut, bonne fin de
semaine. Je te souhaite de passer un super de beau week-end. Yes. Tu vas être là à 14h?
Oh oui!
Ouais,
oui. Les filles aussi. Le garage à Dan. The Body Star.